Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, il est midi 30, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
C'était tout simplement une femme incroyable. C'est une grande perte pour la Cour suprême et pour l'égalité.
L'hommage de plusieurs centaines d'Américains cette nuit à Washington à la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, décédée à l'âge de 87 ans, véritable icône dans le combat pour le droit à l'avortement. Et déjà un bras de fer entre Donald Trump et Joe Biden pour choisir qui lui succédera. Tout cela à un mois et demi de la présidentielle. Déjà 20% de lits de réanimation en Île-de-France occupés par des patients Covid. C'est ce qu'a dit ce matin sur Europe 1 le patron de l'Agence régionale de santé. Est-ce le signe que la deuxième vague arrive? On posera la question à l'épidémiologiste Dominique Costaiola. Nous serons à l'Élysée pour les journées du patrimoine. Protocole sanitaire renforcé, mais visite maintenue. Le Tour de France, avant-dernière étape avec un contre-la-montre de 36 km en Haute-Saône. Et le Slovène Roglic, toujours en maillot jaune. La météo, ça se dégrade avec un ciel très instable sur les trois quarts du pays, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Nous reviendrons sur le coup de massue pour les salariés de Bridgestone à Béthune. Les laboratoires débordés par ceux qui veulent se faire dépister avec parfois des pratiques douteuses comme des tests payants pour réduire les délais. Des pratiques totalement illégales.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc cette nuit qu'on a appris la mort à l'âge de 87 ans de la doyenne de la Cour suprême aux États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, tellement populaire qu'on l'appelait par ses initiales RBG, une véritable icône dans le pays qui a marqué par ses combats pour le droit à l'avortement ou encore le mariage homosexuel. Épreuve qu'elle représentait pour beaucoup d'Américains, ce rassemblement spontané dès l'annonce de sa disparition devant la Cour suprême à Washington, Marion Gauthier.
Oui, des centaines de bougies ont rapidement éclairé les marches de la Cour suprême. Sous ses colonnes, les drapeaux en berne et une foule émue a veillé cette nuit pour Ruth Bader Ginsburg. Des chants, des poings levés en hommage à cette femme engagée pour le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel, entre autres. Elle laisse un vide immense, se désole Erin, habitante de Washington.
C'était tout simplement une femme incroyable, incroyable. C'est une grande perte pour la Cour suprême et pour l'égalité. C'est un bouleversement énorme. Nous sommes totalement dévastés et puis nous avons peur pour notre pays.
Les États-Unis ébranlés par un séisme politique. Les juges suprêmes sont nommés à vie par le président des États-Unis. Sur 9, 5 sont déjà conservateurs et moins de 2 mois avant les élections, Donald Trump pourrait donc changer la donne en remplaçant Ruth Bader Ginsburg, elle qui aurait pourtant déclaré quelques jours avant sa mort « Mon vœu le plus cher est de ne pas être remplacée tant qu'un nouveau président n'aura pas prêté serment ».
Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour Fabienne.
Spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'Université Paris 2, cet hommage spontané devant la Cour suprême, ça témoigne vraiment de l'incroyable parcours de Ruth Bader Ginsburg. On parlait de ses combats qu'elle a portés comme le droit à l'avortement.
Oui, c'est d'ailleurs étonnant parce que c'est pas une juge qui était particulièrement progressiste, c'est une juge dite liberal aux États-Unis, effectivement, mais plutôt modérée. Et elle s'est imposée petit à petit parce que son combat en faveur de l'égalité des droits et du droit des femmes spécifiquement n'est pas un combat nouveau. C'est le combat de toute sa vie. Avant même d'être juge à la Cour suprême, elle avait été pendant de très longues années la juriste en chef de l'SLIU, c'est-à-dire la Ligue des droits de l'homme américaine, et c'est ce qui a porté vraiment le combat de toute sa vie. Elle avait même été très loin à un moment en expliquant qu'elle faisait un vote de femme dans ses décisions, ce qui avait créé une vraie polémique parce qu'elle impliquait qu'il y avait donc un vote de femme et un vote d'homme, ce qui était assez révolutionnaire quand elle a fait cette déclaration il y a une vingtaine d'années.
Alors on le voit, une personnalité très forte. On a entendu Marion Gauthier qui nous expliquait qu'un juge à la Cour suprême, il est nommé à vie. On est à 6 semaines de la présidentielle et déjà, il y a un bras de fer qui s'est engagé cette nuit entre démocrates et républicains. Quel poids ça va avoir sur la campagne ?
Ah, mais un poids énorme. En réalité, il n'y a plus de campagne. La campagne a été emportée dans la tombe par Ruth Bader Ginsburg, on ne va parler désormais que de son remplacement. Mais rendez-vous compte quand même du poids de la Cour suprême dans la vie des Américains. C'est cette Cour qui tranche sur toutes les questions que le Congrès ne prend pas en charge. En France, on peut citer Simone Veil dans le combat de l'avortement, on peut citer Badinter dans le combat contre la peine de mort. Aux États-Unis, on ne peut pas faire l'équivalent parce que les congressistes, les parlementaires américains ne se prennent pas au jeu de ces questions-là. Ils laissent faire les cours et c'est véritablement la Cour suprême qui prend les décisions finales, que ce soit sur l'avortement que j'ai nommé, sur la peine de mort, sur le mariage gay, sur la mise en place de la ségrégation aux États-Unis ou sur la fin de la ségrégation, sur l'emprisonnement, sur la liberté de parole. Enfin, tout ce qui fait la vie des citoyens entre eux, ce qui fait nation, ce qui fait démocratie, c'est vraiment la Cour suprême des États-Unis qui prend les décisions finales et qui guide la nation vers où elle doit aller, vers le meilleur ou pour le pire, suivant les opinions politiques. Donc, bien sûr, c'est une décision, le remplacement de Ruth Bader Ginsburg, aussi importante que l'élection du président elle-même. Et c'est vrai que ça va éclipser complètement les 45 derniers jours. On ne va plus parler de politique au sens classique du terme, même pas de pandémie. On va parler du remplacement de cette juge.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 pour comprendre les enjeux de ce qui s'est passé cette nuit avec la disparition, je le disais, de cette icône Ruth Bader Ginsburg. Merci beaucoup.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Et un nouveau record hier de cas de Covid en France, 13 125 cas enregistrés en 24 heures, ce qui montre une fois de plus que le virus circule plus vite. En Ile-de-France, le plan blanc a été déclenché pour permettre, au cas où, aux hôpitaux de faire appel à plus de personnel. Et ce matin, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, Aurélien Rousseau, expliquait sur Europe 1 qu'un cinquième des lits de réanimation était désormais occupé par des patients Covid.
En Ile-de-France, on est en progression tous les jours depuis le mois d'août. On a 2500 personnes avec le Covid qui sont à l'hôpital, dont 250 en réanimation. Ça signifie que 20% à peu près des lits de réanimation sont occupés par des personnes avec le Covid. Donc cette progression, elle est lente, elle est progressive, mais elle est quand même aujourd'hui, tous les jours on constate, on a pris encore hier 27 patients de plus en réanimation. Ce sont des chiffres importants. Et le point qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi on dit qu'il faut réagir aussi fort ? C'est parce qu'on ne pourra pas vider les réanimations comme on l'a fait la première fois. On a reporté des opérations, il y a des gens qui attendent des opérations, donc la déprogrammation, on ne la fera pas de la même manière, on ne pourra la faire que cibler. Donc il faut réagir et on a encore le temps de réagir.
Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régionale de santé, invité de Pierre Herbulot ce matin sur Europe 1. Notez que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il était positif mais sans symptômes. Il est à l'isolement pour 7 jours, mais il exerce bien ses fonctions. C'est ce qu'il a précisé hier soir sur Twitter. Dans plusieurs régions, les préfets serrent la vis. On attend d'ici lundi les mesures qui doivent être prises à Lyon. À Nice, elles sont déjà en vigueur depuis hier, notamment l'interdiction de se regrouper à plus de 10 dans des lieux publics. On pense aux plages. Alors comment les habitants le vivent-ils ? La réponse avec le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
Sur la promenade des Anglais, Stéphane profite du panorama. Les nouvelles mesures, il en a entendu parler, mais il n'est pas convaincu.
De toute façon, toutes ces mesures, il aurait fallu les faire dès qu'on était déconfinés. C'est un peu tard, hein. Puis ça change toutes les semaines.
Masque sur le nez, Maël, un étudiant niçois, s'apprête à rejoindre des amis dans un café.
Je comprends pas trop le sens de ces mesures. Par exemple, la fermeture des bars à partir de minuit et demi, je pense que ça va seulement déplacer le problème. Les rassemblements seront des périmètres encore plus restreints, dans des appartements, dans des maisons, etc.
Même incompréhension pour Noël Adjouri, le président de l'Union patronale des cafetiers, restaurateurs et du monde de la nuit dans les Alpes-Maritimes.
La semaine dernière, c'était une heure. Aujourd'hui, minuit et demi. Demain, je ne sais pas. On dort avec une disposition, on se lève avec une autre. On ne comprend rien. S'ils veulent une ville fantôme, c'est ce qu'ils vont avoir.
Mais face à la recrudescence des cas de Covid-19 à Nice, cette retraitée approuve ces nouvelles restrictions.
Je sais que c'est dur pour les commerçants, mais bon, voyez où on est arrivé là. Hein. Je pense qu'il y a eu trop d'abus sur les plages, même dans les plages.
Et pour éviter que des gens se rassemblent, le préfet a également interdit la diffusion de musique dans les bars.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, les journées du patrimoine placées sous le signe du Covid, visite annulée justement à Nice où on était à l'instant. En revanche, l'Élysée reste ouvert au public avec un protocole sanitaire renforcé. On sera dans la cour d'honneur dans un instant.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
L'Élysée ouvre ses portes une nouvelle fois pour les journées du patrimoine, mais plus que jamais cette année, il fallait réserver pour découvrir les secrets du palais présidentiel. Les places se sont d'ailleurs arrachées très vite, des places limitées à cause de l'épidémie de coronavirus. Damien Maistre, vous êtes dans la cour d'honneur de l'Élysée. Est-ce que pour autant les visiteurs prennent quand même le même plaisir malgré le protocole sanitaire ?
Ouais, la seule différence, c'est que cette année, le sourire émerveillé des gens à la sortie, il est dissimulé derrière un masque. Mais pas de doute, entre les dorures, la garde républicaine et puis bien sûr le bureau du président, ça fait toujours son petit effet quand on découvre pour la première fois.
On se dit que c'est quand même des bâtiments qui datent de plusieurs siècles et on sait qu'il y a pas mal de beaux mondes qui sont passés par là. Enfin, personnellement, je trouvais ça émouvant.
Alors, il y a aussi les puristes comme Josie qui ne ratent pas une seule édition des Journées du patrimoine et qui a un avis bien tranché.
Je trouve que le président de l'Assemblée nationale habite dans un endroit beaucoup plus beau que le président de la République.
Mais puristes ou pas, tous l'admettent, le Covid est plutôt une bonne chose. Finalement, il y a 4 fois moins de monde que d'habitude. 2500 personnes par jour seulement sont autorisées à visiter le palais. Cela change des interminables files qu'on a l'habitude de voir ici.
Et là, il n'y a personne par rapport à ce que ça a pu être l'an dernier, quoi. C'est appréciable. Puis bon, tout le monde fait attention, on n'est pas les uns sur les autres, c'est bien.
Alors, relativement peu de monde ici, vous l'avez vu, des distances plutôt bien respectées et surtout suffisamment de stock de gel hydroalcoolique pour tenir encore au moins jusqu'à la fin de la journée.
Damien Maistre, dans la cour d'honneur de l'Élysée pour Europe 1, notez que Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sera l'invitée de Wendy Bouchard à 18h15 ce soir sur Europe 1. J-1 avant l'arrivée demain sur les Champs-Élysées à Paris. Je veux pas, bien sûr, parler du Tour de France. Avant-dernière étape aujourd'hui, un contre-la-montre de 36 km en Haute-Saône sur les terres de Thibaut Pinot entre Lure et la planche des Belles-Filles. On retrouve pour en parler notre consultant Richard Virenque. Bonjour Richard.
Bonjour à tous.
Alors j'ai envie de dire qu'avec une telle étape, on saura forcément ce soir qui sera le vainqueur du Tour, sachant qu'il y a 57 petites secondes qui séparent le maillot jaune Roglic de son compatriote slovène Pogacar.
Oui, bien sûr, 57 secondes, on va dire, c'est confortable, mais dans un chrono de 36 km qui arrive à la planche des Belles-Filles, forcément, le deuxième, c'est-à-dire le Slovène Pogačar, peut se dire qu'il peut éventuellement revêtir ce maillot jaune parce que Roglic, même s'il a course gagnée, il a la forme, un contre-la-montre, c'est particulier, c'est une journée, il ne faut pas connaître une journée sans. En tout cas, il y aura une lutte pour le maillot jaune, il y aura une lutte aussi pour le maillot à poids parce que même si Richard Carapaz a le maillot à poids aujourd'hui, il a 2 petits points sur Roglic et Pogačar, il pourrait aussi l'endosser, donc il y a une lutte pour ce maillot à poids.
C'est quoi les pièges justement, Richard, de cette étape, sachant qu'on a 30 km de plat, entre guillemets, hein, quand même, avant 6 km de montée pour le final?
Les pièges, c'est de ne pas rentrer de suite dans le rythme et de perdre du temps. Et le piège aussi, ça va être la condition physique. Il faudra avoir une super condition parce qu'il y a quand même 6 km d'ascension avec de forts pourcentages. Je pense qu'on va voir des coureurs aussi changer de machine. Comme il y a une trentaine de kilomètres de plat, donc ils vont prendre des vélos profilés pour aller plus vite dans le vent. Et ensuite, on va arriver au pied de cette ascension. On va optimiser la légèreté et on va prendre un autre vélo. Donc imaginez que dans un changement de vélo, il y a un quick. Et voilà, donc vous savez, ça va se jouer à pas grand-chose. On peut espérer une belle lutte en tout cas.
Merci beaucoup Richard Virenque et à demain pour le final de cette grande boucle.
Merci, bonne journée.
C'était le Point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
L'actualité sportive, c'est aussi les 24 heures du Mans, ambiance un peu particulière là encore, puisque la course va se dérouler à huis clos. Mais certains passionnés, vous allez l'entendre, sont quand même venus sur place rien que pour le plaisir d'entendre le bruit des moteurs. François Coulon.
Ils ont l'œil collé aux palissades pour apercevoir les bolides. Privés de circuit, les acharnés se gavent de décibels, leur fan absolu.
On est venu d'Orléans sans même penser qu'on verrait quelque chose, mais rien que pour le plaisir, ne serait-ce que de les entendre. Ça me fait vibrer, je sens quelque chose en moi, j'ai envie de hurler, c'est tellement mieux que rien.
Elle est la patronne d'une institution, un restaurant bien nommé aux portes du circuit. Pour la première fois en 44 ans, Janine a le blues.
À cette heure-ci, ça devrait être plein de monde, plein. Et là, rien. Et ça, c'est terrible. Quand j'ai fermé à 20h, que d'habitude on va jusqu'à minuit, 1h du matin, avec plein de monde là, j'ai fermé mes portes, je me suis assise à ma table et j'ai pleuré là. Tout le monde est triste.
Les 24 heures du Mans sans public, c'est ruineux, déplore le patron des hôteliers, Philippe David.
Habituellement, il y a aux 24 heures du Mans entre 220 et 250 000 spectateurs. Là, la CO a délivré 8 500 accréditations. Ça représente pour certains 25 à 30%, voire 40% du chiffre d'affaires. Perdu, c'est énorme.
24 heures sans liesse populaire, une première historique. Le Mans, François Coulon, Europe.
Lyon qui fait match nul face à Nîmes 0-0. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Bay, produit de fabrication française. Arcade et Bay vous présente la météo.
Valérie Darmon, temps instable sur les trois quarts du pays et notamment sur le Languedoc.
Absolument, Fabielle, des orages remontent actuellement d'Espagne. Depuis hier soir, en fait, ils ont franchi les Pyrénées en se dirigeant vers le nord de la côte atlantique. Résultat, un épisode cévenol, normal d'ailleurs en ce début d'automne, le premier de la saison, et les fortes pluies qui vont avec, donc qui se mettent en place en ce moment. L'Hérault, le Gard, la Lozère sont en alerte orange orage depuis ce matin jusqu'à demain. Le Gardon d'Anduze dans le Gard est passé en alerte orange crue. Attention au risque de grêle et aux fortes rafales de vent sur ces départements. De gros cumuls sont attendus par Météo France, 2 à 3 semaines de précipitations en 24 heures avec des risques de ruissellement et d'inondations sur les sols desséchés. Ailleurs, en Bretagne, Charente, Gironde, il pleut aussi de plus en plus, moins voire pas de Lille à Metz en passant par Paris avec de belles éclaircies. Les températures, elles restent très douces pour la saison avec encore 28 à 30 degrés de la région parisienne aux Hauts-de-France et en Champagne et sur les Ardennes comme sur la Côte d'Azur et la Corse et 20 à 24 sur la Bretagne et la Normandie.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, 13 125 nouveaux cas de Covid en France en 24 heures. Nouvelle restriction de rassemblement à Nice. Est-ce la bonne parade? Peut-on éviter une nouvelle vague? On pose la question dans un instant à mon invité, l'épidémiologiste Dominique Costaiola.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Et donc un nouveau record hier de cas de Covid, 13 125 en 24 heures en France. L'OMS qui lance l'alerte cette semaine aussi en Europe en parlant de niveaux alarmants de transmission. Bonjour Dominique Costaiola.
Bonjour.
Épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, merci infiniment d'être avec nous en studio ce midi sur Europe 1. Vous étiez d'ailleurs au Sénat cette semaine devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de cette crise sanitaire. Elle en est où cette crise sanitaire? Est-ce que ça y est, la deuxième vague approche?
Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de deuxième vague ou que ça a un sens, parce qu'on ne le définit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une circulation importante du virus. Néanmoins, pour l'instant, elle ne se compare pas à ce que l'on a eu en mars, parce qu'en mars, compte tenu du fait qu'on faisait peu de tests, le nombre de cas qu'on avait était peut-être 3% de l'ensemble des tests, alors que maintenant, c'est probablement aux alentours de 30%. Donc, il y a un facteur 10. On est plutôt encore dans ce qu'on n'a pas regardé parce qu'on n'avait pas les moyens en place, qui est comment l'épidémie a évolué en janvier-février. Et puis d'un seul coup, elle nous a explosé à la figure en mars.
Pour autant, le virus, vous le dites, circule plus vite. Ce n'est pas uniquement parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas.
Non, parce qu'en fait, quand on regarde le nombre de personnes trouvées positives par rapport au nombre de personnes testées, on voit qu'on est passé de 1% en juillet à maintenant 5,4% sur l'ensemble du territoire, mais en sachant qu'il y a un certain nombre de départements où ça dépasse 8%. Juste pour donner une idée, en Allemagne, au pic de l'épidémie, dans un pays qui testait beaucoup dès cette période, ils ont eu au maximum 10% de positivité. Donc, vous voyez, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on prenne les mesures qui nous permettent d'en rester là et de ne pas aggraver la situation.
Alors justement, Dominique Costaiola, c'est quoi ces mesures? Je le disais dans le journal, les préfets serrent la vis, plus question de se rassembler à plus de 10 personnes, par exemple à Nice, on attend des mesures pour Lyon. Semaine après semaine, on parle des gestes barrières. C'est quoi la bonne parade?
Il y a deux aspects. Il y a le côté comment on fait pour diminuer le taux de reproduction du virus, dont tout le monde a entendu parler maintenant, le fameux R. Eh bien, les gestes barrières, ça contribue, parce qu'évidemment, si on garde la distance, si on se lave les mains régulièrement, que ce soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique, et si on porte le masque en toutes circonstances à l'intérieur, eh bien, on va diminuer cette probabilité. L'autre façon de faire, c'est aussi de diminuer ses contacts. Si on a moins de contacts, on a moins de chances de le transmettre. Et bien sûr, un autre pilier pour diminuer la transmission, c'est dépister, tracer, isoler.
Mais sauf que là, on a bien vu qu'il y avait un petit problème. Alors, il y a les tests salivaires. Le feu vert a été donné hier par la Haute Autorité de Santé. Est-ce que ça va faciliter les choses?
Donc, dépister à l'heure actuelle, c'est effectivement le maillon faible en France. Hein. Mais il y a d'autres pays qui ont aussi ces difficultés. En Belgique, au Royaume-Uni, on a aussi ce type de difficultés avec des délais qui s'allongent. Ce qui ne va pas, c'est le délai avec lequel on peut obtenir un test et le délai avec lequel on a le résultat, en particulier quand on est dans les populations qui ont été priorisées, donc notamment les gens qui ont des symptômes. Alors le test salivaire, en fait, ce qui change, c'est uniquement le prélèvement. Au lieu de faire un prélèvement nasal assez désagréable, le prélèvement salivaire est plus simple. Mais derrière, la technique pour rechercher le virus est exactement la même. Donc en termes de délai, etc.,
ça, peut être aussi
ça ne va pas changer. Simplement, on imagine quand même que c'est plus facile d'organiser les prélèvements, et notamment, par exemple, quand on va faire les barnums, dans la mesure où ce sera des choses qui vont être restreintes aux gens qu'on a priorisés, et notamment aux gens qui sont symptomatiques, ça permettra d'aller quand même plus vite dans le prélèvement.
Donc, mais j'en reviens, Dominique Costaiola, à ce que vous nous disiez par rapport à ces gestes barrières. Je recevais la semaine dernière le professeur Bersch qui, à ce même micro, nous disait il faut porter le masque, il faut se laver les mains. C'est dans les lieux privés aussi, c'est-à-dire dans nos familles, on est tous responsabilisés par rapport à ça. Comment faire entrer ça dans la tête des gens?
Je crois qu'il faut réussir à faire comprendre qu'effectivement, ce sont des mesures efficaces. Si on revient sur les masques, c'est sûr que la communication sur l'ensemble de la crise n'a pas permis aux gens de comprendre pourquoi c'était efficace, puisqu'on a dit pendant toute une période que ça ne l'était pas. En fait, il faut bien voir qu'on se basait sur des données qui concernaient la grippe. Or, la grippe, on n'est pas longtemps infectieux avant d'avoir des symptômes. C'est assez différent de ce virus-là, c'est ça qui fait de la différence. Quand on regarde les études que l'on a maintenant et qui concernent les coronavirus, que ce soit celui qui a causé le SARS, celui du MERS et le coronavirus actuel, on voit que c'est une mesure efficace. Pourquoi ? Parce que comme on peut transmettre en n'ayant aucun symptôme avant d'en avoir, ou si on va rester de toute façon asymptomatique tout du long, eh bien, on prévient la transmission par le masque. Et donc, on n'a pas ça quand on fait la grippe. Et c'est ça aussi qui explique l'évolution. Et un autre point, c'est que très souvent, beaucoup de médecins, si quelque chose n'est pas efficace à 100%, ils considèrent que ça ne marche pas. Mais déjà, si c'est efficace à 80%, ça réduit le risque, vous voyez. Donc, si on est dans une politique de réduction des risques, une chose qu'on a bien appris dans l'infection à VIH sur laquelle je travaille, on voit que c'est absolument contributif. Donc, il faut absolument être convaincu que c'est quelque chose qui va contribuer à ce qu'on n'aille pas dans une situation plus compliquée que celle qu'on connaît à l'heure actuelle.
Et ce qui est peut-être important de dire pour terminer, Dominique Staiola, c'est aussi qu'il y a un effet, si ce n'est retard, c'est que si on fait des efforts aujourd'hui, on ne le verra peut-être pas demain et c'est pour ça qu'il faut être endurant.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les cas qu'on diagnostique à l'heure actuelle, c'est des gens qui se sont contaminés il y a 7 à 10 jours. Donc, de la même façon, quand on prend une nouvelle mesure, il faut attendre au minimum ce délai, à partir du moment où on la met en place, pas où on la décide, mais où elle est vraiment effective sur le terrain, il faut attendre ce délai-là pour en mesurer un effet éventuel. Donc ça, c'est très compliqué, mais c'est tout le temps le cas dans les crises. Quand on a connu la crise de la vache folle, les dernières mesures qui avaient été prises, on a vu a posteriori, quand on a eu les données, qu'il y avait déjà plus de transmission aux animaux, et donc on avait bien réduit le risque aussi aux humains. Mais on continue à prendre des mesures parce qu'on continue à avoir des cas, parce qu'il y avait un long délai pour observer l'effet des mesures.
Et vous nous dites qu'il a encore temps d'agir aujourd'hui.
Oui, mon espoir, c'est qu'on reste dans une situation comme celle qu'on a à l'heure actuelle. Elle est tendue, mais elle n'est pas dramatique. Et le mieux qui puisse nous arriver, c'est de ne pas aller plus loin, de ne pas aggraver la situation. Mais pour ça, il est vraiment temps que tout le monde comprenne que dans une maladie infectieuse, on ne s'en sort pas tout seul. Comme j'ai dit, ce qui compte, c'est le maillon faible. Eh bien, les gens qui ne respectent pas les mesures barrières, ils sont le maillon faible et ils empêchent le contrôle de l'épidémie dans l'ensemble du pays.
Merci beaucoup, Dominique Costaiola. Je rappelle épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 et pour ces mots de bon sens de ces gestes barrières qu'on ne martèlera jamais assez. Merci à vous. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain. L'émission des reporters d'Europe 1, nous reviendrons sur le coup de massue pour les salariés de Bridgestone à Béthune et qui ont appris la fermeture de leur usine. Et puis on reviendra aussi sur ce laboratoire débordé par ceux qui voulaient se faire dépister. Et Europe 1 qui vous a révélé cette semaine des pratiques un peu douteuses avec des facturations à 100 euros pour les tests pour avoir les résultats plus vite, des pratiques totalement illégales.